Dominique Roque, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Le Parfum des forêts chez Grasset, un parfum que vous connaissez bien. Vous avez été sourceur d'extraits naturels pendant plus de 30 ans pour l'industrie du parfum. En fait, vous avez vécu toute votre vie près des arbres.
Oui, alors ça remonte à l'enfance et diverses expériences. Et en fait, j'ai un petit peu l'originalité d'avoir découvert le monde du parfum dans la forêt des Landes, avec une société qui se lançait et qui cherchait à distiller les aiguilles du pin maritime pour faire de l'huile essentielle. C'est dans ce type d'exemple que se rejoignent l'univers de la forêt et celui du parfum.
Et vous avez également été bûcheron ?
J'ai été brièvement bûcheron. Je suivais un petit peu l'exemple de mon père qui, lui, avait été bûcheron aux États-Unis, qui avait ramené la tronçonneuse, qui à l'époque était quelque chose de très nouveau, en Europe. Et alors, j'ai trouvé à la fin de mes études que c'était un bien beau métier qui valait la peine, en tout cas, d'être vécu comme une expérience.
D'avoir été au contact avec la forêt, c'est ce qui vous permet dans ce livre de revenir sur ce lien fondamental entre l'homme et les arbres.
À vrai dire, je suis, après tous ces périples dans beaucoup de forêts du monde, je suis fasciné par l'histoire de la trace des hommes et de leur histoire avec les arbres, avec un constat qui est peut-être un peu paradoxal, mais que je pense qu'après 4000 ans d'exploitation des arbres, on est toujours à la recherche de la réconciliation, qui serait au fond ce que tous les gens qui aiment les arbres voudraient souhaiter. On n'y est pas, il faut le constater avec différents exemples. Mais toutes ces époques, la plus haute antiquité, les premiers bûcherons du monde dans les cèdres du Liban, tout le parcours de l'Occident avec cette fabuleuse histoire du charbon de bois qui a servi à construire l'industrie de notre civilisation, donc dans les forêts de hêtres qui nous sont proches, l'histoire incroyable des séquoias de Californie, et des appétits gigantesques fin du 19e siècle, sans se préoccuper de leur devenir, de couper les plus beaux et les plus grands arbres du monde, jusqu'à des exemples actuel, hein, de ce qu'on ne devrait pas faire et ce qu'on continue à faire dans les forêts tropicales. Voilà, c'est tout ce parcours qui me fascine. Je pense qu'il est important de le comprendre, surtout quand on aime les arbres et qu'on veut réfléchir à ce qui conviendrait de faire aujourd'hui.
Vous venez de citer des forêts mythiques, celles des cèdres du Liban et d'autres en Californie, au Paraguay. Et vous dites qu'en un peu plus d'un siècle, les hommes ont coupé la moitié des forêts de la Terre.
Oui, alors je pense que c'est pas la peine de donner des chiffres extravagants en hectares. Je crois que l'image suffit. Finalement, les forêts, elles reflètent bien ce qui s'est passé pour la planète tout entière. C'est-à-dire, le 19e siècle arrive, tout d'un coup, la machine arrive. La machine rentre en forêt, elle rentre en forêt dans les séquoias au tout début du 20e siècle. Et c'est une révolution absolue. Puis arrivent les tronçonneuses et aujourd'hui, on en est arrivé au stade pratiquement des moissonneuses d'arbres. Pourquoi ? Parce qu'on a un appétit de bois qui est insatiable et qu'on peut comprendre. Mais finalement, on ne sait pas gérer. On ne sait pas gérer notre goût pour la forêt, qui est quand même réel et très répandu, et cet appétit de bois. Et on a beaucoup de mal, on se débat dans cette contradiction. Et évidemment, je plaide pour qu'on en sorte.
Il faut des siècles pour que les forêts reviennent à leur état initial lorsqu'elles ont été coupées.
Alors oui, il y a deux choses très intéressantes là, et aussi peut-être un peu paradoxales. Alors les incendies, tous les exemples qu'on a très très fortement sous les yeux en ce moment, on se dit mais c'est invraisemblable, on est en train de tout détruire, tout est en train de partir. Il faut savoir qu'une forêt qui brûle, c'est affreux, c'est terrible, mais elle va repousser. Elle va repousser, peut-être différente, et selon là où elle est, au nord, au sud, sous les tropiques, là, elle va repousser en 50 ans ou en plusieurs siècles, mais elle va repousser. Et là derrière, il faut percevoir quelque chose qui est incroyable. L'âge des forêts, c'est 370 millions d'années. C'est probablement la forme du vivant la plus élaborée à la surface du globe. Et donc, les forêts sont éternelles. On n'est pas sur la même échelle de temps. Les forêts sont éternelles. Et je prends souvent cette image qui, moi, me fascine. Quand la fantastique civilisation maya, pour des tas de raisons climatiques, économiques, de guerre, arrive à sa perte, on est à peu près en l'an moins 1000, eh bien, aujourd'hui, quand on se promène dans ces zones, ces civilisations qui étaient fantastiques, il y avait des centaines de cités, elles ont disparu. La forêt les a mangées, la forêt les a avalées. Et ce qui exprime bien à quel point la forêt, au fond, regarde nos agissements avec un certain détachement, j'ose pas dire bienveillance, et quoi qu'on lui fasse, elle reprend le dessus.
Et dans la région, je fais une petite digression, mais comme récemment, il y a eu ces quatre enfants qui ont survécu à 40 jours dans la jungle colombienne. Ça vous a inspiré quoi ? Ils se sont nourris avec des plantes sauvages aussi ?
Alors c'est très beau, ça touche particulièrement. Pourquoi ? Parce qu'au fond, c'est un écho très lointain du premier âge de relation des hommes et de la forêt, c'est-à-dire avant que l'homme soit bûcheron. La forêt était sa maison, son havre, il y vivait, elle lui servait, elle le protégeait, elle le nourrissait. Il reste des bribes de ça dans des peuples, certains peuples premiers hein, qu'on continue à découvrir en Amazonie, ou des peuples qui continuent à vivre en Asie du Sud-Est, au Laos, dans des tas d'autres pays, qui continuent à vivre très en lien avec la forêt. Et au fond, ce qu'ont montré ces enfants, c'est que quand on n'a pas complètement rompu ce lien avec la nature et avec la forêt, ben on est autrement armé dans la vie pour survivre.
Pour en revenir à ce qu'on disait, après les incendies, éventuellement la forêt revient. Est-ce qu'il faut la laisser revenir seule ? Est-ce qu'il faut planter, l'aider, replanter ?
Alors je crois qu'il faut planter. Il faut planter, et c'est peut-être le message que je voudrais que mon livre fasse passer. Moi, je voudrais qu'on apprenne aux enfants des écoles à reconsidérer l'arbre. L'arbre, c'est pas un truc en dessous duquel on passe et voilà, c'est tout. Non, l'arbre, il faut retisser avec lui un lien proche du sacré. J'ai toujours cette image, je voudrais qu'on prenne des classes d'enfants, qu'on leur fasse une demi-heure de cours au soleil et ensuite la demi-heure suivante à l'ombre d'un arbre pour percevoir la magie que peut nous apporter l'arbre dans sa fonction d'ombre. Et quand on voit ce qui se passe dans nos villes, vers quoi on est en train d'arriver, mais il faut planter partout. Il faut planter dans les villes, il faut replanter des haies là où on les a détruites si souvent. Il y a plein d'initiatives, il faut planter partout. Alors on nous dit oui, mais c'est compliqué, etc. Mais c'est pas grave, c'est beaucoup plus facile d'enlever des arbres que de les faire naître. Donc bien sûr, il faut planter.
Qu'est-ce que vous pensez de cet apparent besoin d'arbres, de passer par exemple des vacances, perchés dans des cabanes sur des arbres ou de les serrer pour leur faire des câlins ?
J'en pense du bien. Je pense que même s'il y a des excès, des choses qui peuvent paraître un peu caricaturales, forcées, je pense qu'on est en train de retrouver une forme de lien et de relation avec l'arbre qui avait disparu. Une relation que jusqu'au 19e siècle, l'ensemble des gens avaient entretenue. L'arbre avait un côté sacré. Très souvent, il y avait des arbres partout qui étaient vénérés. Tout ça venait d'avant l'époque du christianisme. Même c'est prolongé. Donc, à notre époque et à notre façon, on est en train de retrouver ce côté exceptionnel, ce côté, j'ose pas dire sacré, mais c'est presque ça, de l'arbre. Et je raconte une anecdote dans le livre sur quelque chose qui, à mon avis, montre un point de bascule. Quand au tout début des années 2000, une jeune femme est montée vivre 2 ans sur une plateforme dans un séquoia pour empêcher qu'on l'abatte. Et on s'aperçoit que ce qui était parti d'une démarche tout à fait militante et politique est devenu une démarche de relation d'amour entre une femme et un arbre. Et ça, c'était quelque chose de très neuf qui nous dit beaucoup sur ce qui est en train de se produire maintenant.
Je voudrais parler également des odeurs de la forêt dont vous parlez dans votre livre, parce que vous en parlez vraiment très bien. Vous parlez des notes chaudes, des résineux, des odeurs fortes d'humus, des senteurs de mousse, de champignons et d'eau vive. C'est ça, chaque forêt a son odeur, sa spécificité qu'on retrouve tout le temps, toute sa vie ?
Oui, exactement. Les forêts n'ont pas toutes la même odeur. Les forêts tempérées, de feuillus, ont une odeur où c'est peut-être l'humus et la mousse qui prennent le dessus. Dans les forêts de conifères, les aiguilles sont balayées par le vent, les feuillages nous envoient des nuages d'odeurs fantastiques. Sur les tropiques, c'est complètement autre chose. On est plus dans la décomposition brute du végétal, la macération. Donc toute une gamme d'odeurs où viennent se mêler des fruits à maturité, des fruits en décomposition. Alors ça, c'est la première impression qu'a, je dirais, le promeneur qui arrive dans la forêt. Et puis derrière, il y a un monde incroyable, c'est-à-dire tout ce que les bois cachent comme trésor de parfum. Parce qu'à l'intérieur des bois, alors certains sécrètent des résines, des baumes, ils le font tout seuls, ou on les aide à le faire en venant les gémer, c'est-à-dire faire des entailles dans leur écorce pour qu'ils nous donnent des choses comme l'encens ou le benjoin, tous ces produits fabuleux. Et puis ça va très loin, ça va jusqu'à la mort de l'arbre, quand on le brûle, il y a là une gamme d'odeurs aussi fantastique plastique, sur la combustion, sur le charbon de bois, sur les coproduits du charbon de bois, qu'on retrouve, et ça les gens ne savent probablement pas, dans les flacons de parfums, dans les plus grands parfums, où des fumées de hêtre, par exemple, sont transformées pour donner des notes de cuir.
Dominique Roque, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Le parfum des forêts, paru chez Grasset.